Histoire d'archives, troisième jeudi du mois. Bonjour Lofranec, bonjour Laure.
Bonjour Jean-Marc, avec le bourdonnement.
Le bourdonnement, mais après on l'enlèvera, je couperai mon micro.
D'accord.
Alors pour cette émission de ce mois de mai, pour Histoire d'archives, nous allons replonger dans la Seconde Guerre mondiale, mais pas avec n'importe qui.
Oui, alors les archives départementales ont mis en ligne, à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, deux archives inédites qui sont entrées en don en 2018 dans notre service. Alors c'est Monsieur Michel Henry de Digne-les-Bains qui s'est présenté un jour à l'accueil en disant avoir deux carnets en provenance de son père. Il ignorait tout à fait comment son père avait pu entrer en possession de ces deux carnets. Et ces deux carnets rédigés par un ancien bagnard. Alors il se trouve que dans une précédente expérience professionnelle, j'ai travaillé en Guyane. Donc c'est quelque chose que je connais bien. Et quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai vu que ces deux carnets étaient signés par Paul Roussinck. Paul Roussinck est un personnage bien connu des gens qui s'intéressent à l'histoire pénitentiaire, car c'est le bagnard qui a le plus gros dossier de l'administration pénitentiaire, hein, sachant qu'il y a quand même des milliers et des milliers de dossiers de bagnard. Alors pourquoi a-t-il le plus gros dossier ? Eh bien parce que c'est un bagnard qui n'a cessé d'écrire à l'administration pénitentiaire, et il a eu le temps, hein, il est resté plus de 25 ans au bagne. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de matière sur ce personnage, déjà par rapport à sa correspondance qu'il a entrepris du temps de sa détention. Et en plus, lorsqu'il a été libéré, il a couché par écrit les souvenirs du bagne, et il a été publié. Donc non seulement on a les archives relatives à sa détention et à la correspondance qu'il a entretenue avec l'administration pénitentiaire, mais en plus, il a rédigé lui-même ses souvenirs qui ont été publiés. Alors on verra, publiés avec des retouches, mais on en reparlera plus tard.
Alors on sait ce qu'il a fait exactement pour aller au bagne, parce qu'avant on allait au bagne pour pas forcément grand-chose.
Ah oui, mais là lui c'est son cas, hein, en fait. Au départ, c'est un révolté, hein. C'est quelqu'un qui est en rébellion. Il part sur les routes à 16 ans, il commet quelques petits larcins, mais en réalité, quand l'engrenage vraiment infernal est lancé, c'est simplement parce qu'il est arrêté pour vagabondage. Il n'a pas d'argent sur lui, il n'a pas de domicile, hein, et donc il est contrôlé par la maréchaussée. Il passe devant un tribunal, il est condamné à plusieurs mois de prison, et malheureusement, il fait appel, ce qu'il n'aurait pas dû faire, parce qu'en général, à l'époque, quand on faisait appel, la peine était confirmée, voire
alourdie,
ce qui est son cas. Et quand il passe en appel, et qu'il se rend compte qu'il est toujours condamné, et encore pour bien pire, il s'énerve et il lance un croûton de pain à la tête du juge. Ce qui évidemment a alourdi encore plus son cas, et donc il est envoyé en bataillon disciplinaire en Afrique du Nord. Ça se passe évidemment fort mal parce que il est parfaitement rétif à l'autorité. En plus, c'était des bataillons disciplinaires, hein, très très difficiles, et donc il se fait très rapidement, il diffuse de la propagande antimilitariste. Donc évidemment, dans un bataillon disciplinaire, c'était pas vraiment très bien reçu. Donc il est condamné à une peine de cachot. Et alors il raconte, hein, parce qu'on a des procès-verbaux où il explique un peu tout ça. Il dit, ben voilà, moi je me voyais pas rester enfermé, donc pour qu'on me fasse sortir, j'ai mis le feu à mes vêtements. Évidemment, il y a de la fumée, ils ont ouvert. Et en fait, il a été condamné comme pour tentative d'incendie de toute la caserne, en fait, de tout, ce qui n'était pas du tout le cas, puisqu'il voulait juste le sortir. Bon, c'était un trublion, hein, vraiment. Et alors là, évidemment, l'escalade de la catastrophe continue. Il est condamné au bagne cette fois. Et donc, il arrive au bagne des Îles du Salut. Alors, il faut que j'ai la date en tête pour ne pas dire de bêtises. Il arrive. Alors, je sais quand est-ce qu'il est libéré, en 1929, voilà, mais donc il est envoyé en bagne en 1909, voilà, 1909, et il la quitte en... Alors, en fait, il a été libéré en 1929, mais en fait, il ne quitte la Guyane qu'en 1932, parce que vous savez, c'était... Les bagnards devaient payer en fait les frais de leur retour en métropole. Donc évidemment, ils n'avaient pas d'argent là, pour la plupart. Et donc finalement, c'est le Secours Rouge International qui prend en charge son rapatriement en métropole.
Quand on dit à Cayenne, c'est pas sur le territoire du sud, de l'Amérique du Sud, c'était sur une île.
Alors, la Guyane, c'est en Amérique du Sud. Après, à l'époque, il y avait en réalité qu'une seule commune, c'était Cayenne. Ah bon, après, il y avait aussi Saint-Laurent-du-Maroni, mais qui était une commune un peu particulière, qui était une commune pénitentiaire, hein, un cas unique en France. Et donc, quand on dit le bagne de Cayenne, en réalité, c'est le bagne de Guyane. Et dans le bagne de Guyane, il y a plusieurs établissements pénitentiaires, dont celui des îles du Salut, qui effectivement sont au large de ce qui est aujourd'hui Kourou, quoi, qui n'existait pas à l'époque, enfin, ou du moins pas à l'échelle qu'on connaît aujourd'hui. Et Kourou, c'est un archipel de trois îles. Les îles du Salut, c'est un archipel de trois îles. Hein, voilà, avec chaque île a une destination pénitentiaire particulière. Donc l'île du Diable, c'était réservé aux détenus politiques. C'est là où Dreyfus, notamment, a été détenu. L'île Royale, c'est là où on envoyait les principaux bagnards, et c'est là où résidait l'administrateur du bagne des îles du Salut. Il y a toutes les administrations, il y a un hôpital, il y a une chapelle. Et l'île Saint-Joseph, que Roussinck a beaucoup fréquenté, c'est l'île où il y avait ce qu'on appelait le quartier pénitentiaire, vraiment où on enfermait à l'isolement les détenus récalcitrants dont Roussinck faisait partie. Voilà. Donc tout ça ne nous explique pas trop pourquoi finalement on se retrouve aux archives départementales avec deux carnets écrits par ce bagnard qui n'était pas originaire du département, hein, qui était né à Saint-Gilles dans le Gard. Eh bien c'est parce que quand la Seconde Guerre éclate, l'administration française traque ce qu'elle appelle les indésirables. Hein, c'est la terminologie administrative qui en dit long. Donc les indésirables, c'est tous ceux dont le passé ou le présent, des fois seulement le passé, les rend suspects aux yeux d'une administration d'un pays qui est en guerre. Donc il y a des gens très très divers qui se sont retrouvés dans ces centres de séjour surveillés. Jean Giono a été incarcéré en centre de séjour surveillé pour des suspicions, alors pas des suspicions, il a eu des propos pacifistes avant-guerre et des suspicions de collaboration. Donc voilà, Jean Genot par exemple s'est retrouvé en centre de séjour surveillé. Paul Roussinck, lui, clairement, il a été incarcéré parce que c'était un ancien bagnard, qu'il avait des sympathies anarchistes. Quand il est rentré du bagne, il a continué à participer notamment à un organe de presse anarchiste dans le coin de Nîmes. Voilà, bon, après, c'était pas non plus, je veux dire, la bande à Bono, c'était fini. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on n'était pas... les grandes heures d'anarchisme, et surtout de l'anarchisme violent, étaient loin. Mais voilà, en fait, la France a vraiment cherché à interner tous les gens qui potentiellement pouvaient être un danger, au même titre qu'on a interné, on en a déjà parlé à cette antenne, des étrangers qui étaient sur le sol français, a fortiori des étrangers... comme des Allemands, des Autrichiens, qui étaient par définition suspects du fait de leurs origines, alors que parfois ils étaient parfaitement insérés et pas du tout pro-patrie de leur origine.
Les bagnards devaient parler entre eux. Il y avait Seznec à l'époque qui était aussi au bagne.
Alors Seznec, c'est pas tout à fait la même période, Seznec. Hein. Ouais. Non, il n'en parle pas du tout. Seznec, c'est pas la même période. Après, ce qui est intéressant, c'est que... pour revenir sur le bagne, parce qu'en fait, dans les deux carnets qu'on a reçus, on a donc un poème en alexandrin. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Paul Roussinck, alors quand bien même que c'était quelqu'un qui est parti sur les routes dès 16 ans, est quelqu'un qui écrit extrêmement bien. Il a beaucoup de vocabulaire, il fait très peu de fautes, ce qui est quand même remarquable pour quelqu'un qui n'a pas vraiment eu d'éducation. C'est un grand lecteur. D'ailleurs, c'est très amusant parce que l'une de ses revendications avec l'administration pénitentiaire, c'est de pouvoir avoir accès à des livres. Il y a une bibliothèque au bagne des îles du Salut, une bibliothèque qui a été constituée par par des bagnards eux-mêmes, hein, qui avaient reçu des livres, et quand ils ont quitté le bagne, ont laissé les livres en demandant expressément que ce petit fonds constitue une bibliothèque. Donc j'ai, aux Archives nationales des Outre-mer, de l'Outre-mer, j'ai retrouvé la liste, le catalogue en fait, de la bibliothèque qui avait été dressée, parce que Roussinck en fait, écrit en disant que les livres, ils les avaient déjà tous lus, qu'il aimerait bien en avoir d'autres, et l'administration pénitentiaire en a fourni quelques-uns. Alors c'est toujours très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils avaient à lire. Alors c'est hyper varié, hein, parce que évidemment, comme ça, l'administration a acheté quelques ouvrages, mais c'est surtout des dons des bagnards eux-mêmes. Alors on a de tout, des ouvrages techniques, on a Crime et Châtiment, ça quand même m'a fait un petit peu, ça m'a fait un peu rire entre guillemets, de voir qu'on leur donnait à lire Dostoïevski. Voilà, donc c'est Roussinck, il a vraiment un appétit de lecture, c'est sa façon à lui de survivre aussi, hein, de lire et d'écrire, parce que c'est la seule chose qui lui reste, en fait, c'est d'écrire. Et donc, il n'a de cesse de contester le règlement, contester les punitions. Et comme il conteste, eh bien, il est énormément puni et donc énormément enfermé. C'est vraiment quelqu'un qui a tenu, justement, par une espèce de ténacité, et on peut dire de rage, qui force le respect. Hein, je veux dire, c'est surtout, bon, comme je l'ai dit, c'est pas autant au bagne. Il pouvait y avoir de vrais criminels, voilà, des souteneurs, des meurtriers. Il y a aussi toute une population du bagne qui sont en fait des gens, des petites gens qui étaient dans la misère, qui ont commis quelques larcins et qui surtout avaient l'immense défaut aux yeux de l'administration de l'époque d'être des vagabonds, des moins que rien, et qu'on voulait éloigner absolument de la métropole parce que potentiellement on pensait que ça pouvait être des dangers. Donc voilà, Roussinck, du coup j'ai totalement perdu le fil de ce que je voulais dire, j'étais partie sur ce qu'il avait écrit. Donc il a écrit à la fois le carnet, hein, ou réécrit en fait l'histoire de son bagne, enfin, qu'est-ce qu'il a vécu au bagne, mais alors il en parle, si vous voulez, il veut être un témoin. Vraiment, hein, il le dit d'ailleurs en conclusion, pour lui, ce récit, ce n'est pas un faire-valoir. C'est pas « moi j'ai fait ça », il n'est pas du tout dans cet esprit-là, ce qu'on a pu retrouver dans d'autres témoignages de bagnards. Il veut démontrer l'inanité du système du bagne et son échec. Et sa conclusion porte là-dessus, en disant « ce système ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner. C'est un système corrompu tant au niveau des bagnards qu'au niveau de l'administration même, puisqu'il dénonce tous les trafics qui sont opérés au sein du bagne. » Donc il a vraiment ce regard très distancié finalement par rapport au bagne et toujours très bien écrit. Et donc ça, il réécrit cette histoire, pourquoi ? Parce que quand il quitte le bagne, il est pris en charge par le Parti communiste français, hein, qui prend fait et cause pour l'abolition du bagne, hein, à la suite notamment de la dénonciation qu'on le connaît tous d'Albert Londres, hein, qui fait cette grande enquête au bagne et qui publie son enquête d'abord dans la presse, dans le Petit Parisien, et ensuite est publiée en édition. Donc le Parti communiste français embrasse cette cause. Le bagne sera effectivement aboli juste avant la Seconde Guerre mondiale, mais dans les faits, les bagnards reviendront en France après la Seconde Guerre mondiale seulement. Mais donc le Parti communiste français envoie même Paul Roussinck en Russie pour faire une enquête, une espèce de reportage. Il en revient sans illusion. Hein. Donc il prend ses distances, en fait, avec le Parti communiste, parce qu'en réalité, ça n'était pas c'est vraiment un anarchiste dans le sens rebelle. Donc ça ne lui convenait pas du tout. Et le Parti communiste publie son témoignage, mais le publie avec des retouches politisés, qui ne correspondent pas à ce que pensait Paul Roussinck. Donc Paul Roussinck est quand même médusé par rapport à ça. Son texte va être réédité après sa mort. Donc ça, il n'a pas eu le temps de voir le problème par un abbé. Oui, c'est grand écart. Alors, c'est un abbé qui avait été prêtre ouvrier. Hein, donc, on est en 1957. Lui aussi, évidemment, l'abbé ne peut pas s'empêcher de retoucher le texte. Donc là, on y voit, comme par hasard, Dieu apparaît, voilà, le bien, le mal, ce qui n'est absolument pas dans le propos de Paul Roussinck. Voilà. Et donc, Paul Roussinck se sent quand même un peu trahi dans sa pensée.
Les anarchistes, comme c'est plutôt ni Dieu ni maître.
Voilà, exactement. Donc, voilà, ça ne pouvait pas lui convenir. Alors, je vous dis, il n'a pas vu la réédition de l'abbé Pucheux. Je ne sais pas trop comment l'abbé Pucheux a eu ce texte entre les mains, mais bon, toujours est-il que le récit de Paul Roussinck, tel que lui, il avait pu l'écrire, il a été déformé de toute façon dans les publications qui sont toujours disponibles actuellement. Hein. Il y a eu plusieurs publications aux éditions Libertalia et à l'édition La Manufacture des Livres qui ont réédité ces textes. Donc la version Secours Rouge International, la version Abbé Pucheux. Et alors nous, ce qui est hyper intéressant aux archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, c'est que M. Michel Henry, il nous apporte un manuscrit de la main de Paul Roussinck, signé de Paul Roussinck. L'identification est sans erreur possible, d'un texte qui n'a pas été retouché, évidemment. Donc là, on a vraiment une version brute, qui est une seconde réécriture, hein, qui est après la première version qu'il a livrée au Secours Rouge International, enfin, au Parti communiste français, et puis qui en a fait ce qu'il en a fait. Donc il réécrit, mais alors on retrouve à peu près les mêmes parties, mais voilà, il n'y a plus... c'est vraiment un témoignage et la volonté de vouloir dénoncer ce système. Sachant qu'il est, à ce moment-là, en 1942... Il est interné à la citadelle de Sisteron, ce qui explique pourquoi donc, nous avons aujourd'hui ces carnets. Hein, c'est que, a priori, le père du donateur était menuisier à Sisteron. A-t-il pu entrer en contact à un moment donné pour des travaux quelconques au niveau à la citadelle? On n'en saura jamais rien, mais toujours est-il qu'il récupère ces deux carnets. Et, donc,
oui, il les a récupérés à ce moment-là.
A priori, oui. Hein. Ce n'est pas un achat qui a été fait ultérieurement. On a questionné, on a eu des échanges avec monsieur Henry. Il ignore totalement comment son père a pu obtenir ses carnets. Donc on a supposé que ça s'est fait vraiment pendant la guerre, quand son papa était dans le coin de Sisteron. Et donc, il faut comprendre aussi l'état d'esprit de Paul Roussinck. Il est revenu en France, donc il a quitté la Guyane en décembre 1932. Il met pied en métropole en 1933. Sa vie n'est pas simple. Hein, même si, alors, il est pris en charge par le Parti communiste français, mais il est un peu instrumentalisé. Bon, en fait, il ne sort pas la tête de l'eau. Je veux dire, c'est très difficile de revenir à la vie après une telle expérience. Donc, en réalité, il a à nouveau une petite condamnation pendant cette période-là. Voilà, il ne se réinsère pas au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. Et il est rattrapé, en fait, par son histoire. On l'incarcère à nouveau. Il est raflé à Avignon. Donc, on l'envoie dans le Limousin, dans un premier centre de séjour surveillé. Puis, très vite, il est transféré à la citadelle de Sisteron. Et puis, sera à nouveau une troisième fois transféré à Fort Barreau, en Isère. Hein.
Et la raison, c'est pourquoi il était pris dans une rafle?
Mais parce que, je vous dis, on traquait. En fait, c'était des personnes qui étaient surveillées pour leur antécédent.
Oui, voilà. Mais enfin, il ne pardonne rien, quoi.
Ah non. Non. Bah, en temps de guerre, vous savez, l'administration est méfiante. Et donc, elle se méfiait. Donc, il y avait des personnes qui étaient dans le collimateur de l'administration et il en faisait partie. En plus, il avait eu quand même il avait eu une audience publique. Hein, Paul Roussinck fait partie des bagnards auxquels Albert Londres consacre un chapitre. Hein, donc, déjà, il était célèbre dès du temps de son incarcération. Il est publié par Parti communiste français. Le Parti communiste français n'était pas spécialement le parti le plus en odeur de sainteté, façon de parler, pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, j'entends. Bah, vous voyez, il est vraiment dans le collimateur. Et donc, il se retrouve à nouveau enfermé dans des conditions qui lui rappellent bien évidemment le bagne. Et donc, en 1942, il réécrit les souvenirs du bagne. Et en plus, il écrit un poème en alexandrin. Comme je l'ai dit, il écrit très bien et il manie très bien l'alexandrin. Et il écrit un poème en alexandrin sur Sisteron. Et les conditions d'internement assisteront, où en fait on retrouve exactement les mêmes thèmes qu'il a condamné tout le temps de son incarcération au bagne, c'est-à-dire les petits trafics. Il y a vraiment un fil rouge qui peut prêter à sourire, mais il faut comprendre aussi, hein, c'est la faim, en fait, au bagne et quand il est incarcéré à la citadelle. En fait, il a faim. Il a faim parce qu'on leur donne pas des rations suffisantes, la nourriture n'est pas de bonne qualité. Alors c'est sûr, ça peut paraître, mais en fait c'est la seule chose qui leur reste, hein, dire manger. Et il y a beaucoup, notamment au bagne, il y a beaucoup de trafic lié au repas, c'est-à-dire que certains surveillants en fait font du trafic sur la nourriture qui est distribuée aux bagnards. Et certains bagnards qui ont des positions, parce qu'il y a toute une hiérarchie, hein, c'est très complexe comme société, certains bagnards en fait font un petit commerce, il y a des petits arrangements entre les uns et les autres, et donc comme la nourriture n'est pas assez abondante et n'est pas assez bonne, il y a des bagnards en fait qui font un peu de cuisine, qui arrivent à récupérer des produits et qui vendent aux bagnards qui le peuvent de la nourriture supplémentaire. Voilà, donc évidemment ça lui rappelle tout ça, j'allais dire tous ses souvenirs remontent à la surface et il couche à nouveau par écrit ses souvenirs du bagne et ce poème dont je lirai, je peux lire le poème en entier parce que le poème est assez court finalement, mais peut-être un petit intermède musical. Alors j'ai choisi une musique évidemment en rapport avec le sujet, un titre de Public Image Limited qui s'appelle Rise, qui veut dire l'élévation, et dans lequel le chanteur répète à plusieurs reprises « Anger is my energy », donc « La colère est mon énergie ». Je pense que ça convient assez bien à Paul Roussinck. Merci.
See ya. Fréquence Mistral, ma radio, mon pays. 99.3.
Et de retour avec l'émission Histoire d'archives avec Laure Franek. Alors on continue avec votre invité.
Voilà, Paul Roussin. Donc Paul Roussin, vraiment singulier personnage. Et donc je reviens, pourquoi finalement à Sisteron il a envie d'écrire à nouveau ses souvenirs, qui sont sans doute des souvenirs assez douloureux. Ben voilà, les conditions d'internement dans la citadelle de Sisteron lui rappellent les conditions d'internement du bagne, et à ce moment-là tous ses souvenirs affluent et à nouveau il couche par écrit. Non, à l'occasion du 8 mai 45, donc nous avons mis en ligne les deux carnets manuscrits que les internautes peuvent feuilleter, avec en plus en téléchargement la possibilité de télécharger une présentation des deux carnets qui contextualise un petit peu leur rédaction, qui explique un petit peu ce que c'est que le bagne, qui est Paul Roussin, voilà, pour essayer de donner à comprendre ce sujet qui est très complexe, hein, car le bagne est vraiment une organisation extrêmement complexe. En plus, le bagne a connu des évolutions, il a quand même existé près de 100 ans, donc il a eu le temps d'évoluer, et c'est vraiment il y a toute une hiérarchie à l'intérieur du bagne, à l'intérieur de l'administration pénitentiaire, mais aussi à l'intérieur des bagnières, avec des statuts différents, et c'est vrai que c'est pas forcément facile à comprendre. Vous me questionnez pendant l'intermède sur quand est-ce que Paul Roussin avait quitté la colonie. Donc ce que j'expliquais, c'est qu'en plus les bagnards, lorsqu'ils étaient condamnés à 8 ans ou plus de bagne, une fois leur peine échue, sachant que souvent leur peine était prolongée par le biais des punitions, etc. C'est ce qui arrivait à Paul Roussin. En fait, pourquoi il est resté si longtemps? C'est qu'il a tellement enquiquiné, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, parce que vraiment il était considéré comme un enquiquineur à l'administration pénitentiaire, qu'il a été beaucoup puni et que ça a rallongé d'autant sa peine. Mais en plus, quand le bagnard était condamné à 8 ans ou plus, quand sa peine était échue, il avait l'obligation de rester la durée égale de sa peine sur le territoire de la colonie. On appelait ça le doublage. Alors l'idée de départ, c'était pour espérer que ces bagnards restent dans la colonie et la mettent en valeur. Il y avait toujours l'idée que c'était une colonie, qu'il fallait donc coloniser le territoire et donc cultiver, devenir marchand, etc. Bon, très très vite, l'idée, c'était de maintenir éloignée cette population jugée dangereuse. Et de fait, beaucoup de bagnards ont fini leur vie en Guyane. Alors en plus, ceux qui avaient fini et leur peine et avaient fini éventuellement leur doublage, ils n'avaient pas forcément l'argent pour revenir en métropole. Donc de toute façon, ils finissaient leur vie en Guyane, souvent très affaiblis, malades, parce que c'était quand même pas des conditions très faciles. Puis la Guyane a quand même un climat difficile. Hein. Y a des conditions sanitaires pas forcément évidentes. D'ailleurs, Paul Roussinck consacre un chapitre sur ce qu'ils appellent c'est les indigents, en fait, c'est tous ces bagnards qui échouent littéralement, ces anciens bagnards qui échouent pas très loin de Saint-Laurent-du-Maroni, dans une espèce d'hospice qui les prend en charge pour éviter que leur déchéance ne soit encore pire.
Voilà, vous dites colonie, mais colonie, donc ils ont côtoyé des femmes. Est-ce qu'ils ont pu avoir des descendants à ce moment-là ?
Le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, son grand-père est un ancien bagnard. Voilà. Donc, c'est Léon Bertrand qui a été un ancien ministre. Hein, d'accord. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Saint-Laurent-du-Maroni n'a pas laissé tomber ce patrimoine. Hein. Saint-Laurent-du-Maroni est une ville vraiment unique en France. Hein. Comme je l'ai dit, elle a un statut tout à fait particulier. C'était une ville, une commune pénitentiaire. Hein. C'est-à-dire que la commune elle-même était entièrement un centre pénitentiaire. C'est un truc qu'on n'imagine pas. Visuellement, c'est très impressionnant quand on se rend à Saint-Laurent-du-Maroni, parce que vraiment, le camp est dans la ville, hein. Mais vraiment dans la ville. Et toutes les maisons, en tout cas qui datent de cette époque, sont en rapport avec la colonie pénitentiaire. Hein. Donc il y a à la fois évidemment le centre d'incarcération proprement dit, mais aussi tous les locaux administratifs, et puis tous les bâtiments pour héberger l'administration pénitentiaire. Donc vous avez un quartier entier qui est le quartier de l'administration. Donc c'est une ville extrêmement marquée. Voilà. Après, des descendants de bagnards, il y en a certainement, on en voit dans les patronymes. Voilà, quand même, la mortalité était assez importante. C'était quand même des pauvres vies. Hein. Bon, après, tous n'étaient pas des anges. Hein, je veux dire, Paul Roussinck qui est intéressant parce que c'est quelqu'un d'attachant, parce que justement, il est pas. Sa faute initiale est très bénigne. Hein, et on se dit, mais. Comment est-ce possible, hein? J'évoque dans mon introduction des romans anciens tels que Jules Vallès ou Georges Darien. Ça fait vraiment penser à des personnages à un personnage de roman. Hein. Voilà. Après, il y avait des vrais crapules. Hein. D'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que ceux qui étaient vraiment qui étaient des gens qu'aujourd'hui ont, enfin vraiment des grands bandits. Hein. Ceux-là, quand ils sont arrivés à quitter le bagne des fois en s'évadant, parce qu'il y avait quand même quelques évasions. Ils y arrivaient aussi parce qu'ils avaient du soutien, ils avaient de l'argent, et des fois ils reproduisaient en fait ailleurs ce qu'ils avaient toujours fait, à savoir du banditisme. Roussinck explique qu'à un moment, une des filières d'évasion, c'était la Guyane hollandaise, hein, qu'aujourd'hui on appelle le Guyana. Alors, en Guyane hollandaise, ils accueillaient volontiers, entre guillemets, les anciens bagnards, puis jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que les anciens bagnards, ben, ils se livraient à des activités pas franchement terribles. Et donc après, il explique que c'était fini. Quand il y avait des bagnards qui arrivaient à franchir le Maroni et arrivaient dans ce pays-là, en fait, ils renvoyaient les bagnards en Guyane française parce qu'ils n'avaient pas envie qu'ils restent sur le territoire. Voilà. Donc, alors, je vais peut-être quand même donner à lire, à entendre la prose de Roussinck. D'abord, un petit extrait d'une lettre qu'il a envoyée quand il est interné en centre de séjour surveillé. Où, là encore, il garde cette ténacité, vraiment qui force le respect. Hein. Moi, je sais que quand même, le dossier aux Archives nationales d'Outre-mer est un dossier qui fait plusieurs kilos. C'est quand même, on se dit, comment quelqu'un n'a jamais baissé les bras, quoi. Je veux dire, je pense que bien d'autres, et moi la première, on en aurait laissé tomber au bout d'un moment. Donc là, il écrit au chef de camp de Sisteron pour dénoncer le piètre repas du jour, qui est pourtant un jour férié. Hein, puisque là, il écrit, en fait, on est le 14 juillet. Donc évidemment, il estime que quand même, un 14 juillet, on mérite d'avoir un repas un peu meilleur que d'ordinaire. Alors il écrit, En plus, il explique qu'il a eu un problème avec le brigadier de garde. Vraiment, si ça avait été un agent intelligent, il n'aurait pas agi de la sorte. Se faisant par sa bêtise et sa provocation, il m'a jeté hors de mes gonds et c'est pour un moment. J'ai 23 ans de bagne, dont 6 ans de cachot, et cela ne m'a pas dressé. Ce n'est pas ici, à Sisteron, que l'on sera plus heureux. Je ne demande qu'à passer au tribunal pour outrage à agent, ainsi je ferai connaître les abus qui se passent ici. Sinon, et si l'on me maintient dans ce camp, ce sera une lutte sans répit entre moi et vos agents. Un des leurs l'aura voulu. Respectueusement, l'interné Paul Roussinck. Vous voyez, bon. On est en 1942, sachant que Paul Roussinck, il a fini sa vie. Il s'est suicidé, en fait, en 1949. Il s'est jeté dans le fleuve à Bayonne, usé. Hein, voilà, c'est-à-dire que sa ténacité, elle l'a porté tout le temps, où il a été interné, enfermé, parce qu'en fait, il avait un but contre qui, c'est-à-dire s'opposer. Quand il s'est retrouvé finalement libéré du centre de séjour surveillé et puis malade, hein, très malade, bon, il a abrégé sa vie, malheureusement. Il y a une lettre, il y a deux extraits que je voudrais vous lire avant d'annoncer l'actualité des archives départementales, parce que vraiment la qualité de l'écriture est étonnante et n'est pas exemple d'humour. C'est quand même assez fascinant. Alors notamment en 1915, ça fait déjà 6 ans qu'il est au bagne, il écrit au ministre, bon, il ne se démonte pas, hein, au ministre des colonies, pour se moquer d'un surveillant, le surveillant principal Capi, dont il a beaucoup de problèmes avec lui. Monsieur le ministre, alors Saint-Laurent, le 19 novembre 1915. Monsieur le ministre, j'étais heureux lorsqu'aux îles du Salut, j'ai appris que monsieur le surveillant principal Capi venait d'être décoré de la Légion d'honneur. C'est le magnifique couronnement de sa carrière. Travailleur infatigable, esprit éclairé, d'une grande compétence. Monsieur le surveillant principal Capi s'est toujours attaché à concilier les devoirs de l'humanité avec la rigidité des règlements, la loi d'airain et la loi naturelle. Dans ces temps héroïques, n'oublions pas, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale, hein, où la croix des braves est si rarement décernée à ceux qui ont fait leurs devoirs en dehors des champs de bataille, cette distinction est infiniment précieuse. J'ai tenu à m'associer à cette belle consécration de ces loyaux services, respectueusement, le transporté 37664 Paul Roussinck.
C'est plein d'ironie.
Ah oui, oui, non, il ne se laisse pas démonter. Alors en 1914, il écrit au directeur de l'administration pénitentiaire. Alors vous allez voir, c'est très drôle aussi. Monsieur le directeur, c'est de ma barbe que je viens vous entretenir. J'ai bien envie de ne plus me la laisser raser pendant 6 mois. Depuis 10 ans qu'on me la fauche impitoyablement. Je voudrais bien avoir poussé ma barbe. Je ne l'ambitionne pas du genre de celle que portait si bravadement votre barbant prédécesseur. Certes non, je voudrais une barbe quelconque, même hirsute, pourvu qu'elle ne soit pas postiche. Il est vrai que la barbe, c'est rasant. Mais la moustache, oh la moustache, c'est pareil que l'on conquiert les bonnes grâces des belles, plus que par des déclarations enflammées, alors qu'on la relève cavalièrement et que ses pointes acérées semblent défier les cieux. La moustache, monsieur, même absente, rappelle encore le grand conquérant que fut Napoléon. C'est assez drôle parce que Napoléon n'avait pas de barbe, donc je pense qu'il y a, il y a encore. Hein. C'est pourquoi, sur la moustache, je me fiche de la barbe. Ne croyez pas que je m'en consolerai avec la mouche si fièrement portée par le commandant Lebeau. Je n'en veux pas. Il en est de même pour les favoris, ce serait du favoritisme. Et au surplus, on pourrait me prendre pour un Anglais. Et alors, je reste perplexe, qu'en pensez-vous? Vous pensez peut-être que c'est la barbe? Vous avez raison, je m'arrête, car vous pourriez croire que je vous rase. Respectueusement, le transporté 37664 ou 5. Et alors, l'administration pénitentiaire, enfin le directeur a écrit une galéjade classée.
Oui, il faut signaler à nos auditeurs, jeunes auditeurs, ce que sont les favoris.
Oui.
Les favoris, ce sont les pattes qui descendent un petit peu plus le long des joues.
Voilà, qu'on appelle aussi les roues-flaquettes.
Aussi.
Voilà, les roues-flaquettes. Allez, pour terminer, avant juste d'annoncer les deux conférences, un extrait du poème. Donc, comme je le disais, il écrit aussi en alexandrin, donc le poème qu'il a intitulé « Les internés de Sisteron ». Donc, il a écrit en 1942, lorsqu'il était incarcéré à la Citadelle. Avec son ambiance et sa mentalité, et ses tristes cachots où plus d'un est jeté, le camp de Sisteron perché sur la montagne, sous beaucoup de rapports, me rappelle le bagne. Si le climat local est davantage sain, par contre, on y ressent les affres de la faim. 400 internés, raflés par la police, s'y trouvent séquestrés, endurant le supplice, de s'y voir détenir un temps indéfini, sans être condamnés tout en étant punis. Il y en est dans leur cas plus de 100 000 en France, qui sont en liberté, en toute jouissance. Eux sont là, on les tient, on les montre du doigt, comme gens sans aveu, n'ayant ni foi ni loi. Cependant, parmi eux, traités d'indésirables, beaucoup menaient dehors une vie honorable. Ils laissent au foyer leurs femmes, leurs enfants, sans soutien, exposés aux misères du temps. Voilà, donc je ne vais pas lire tout le poème, juste terminer sur les derniers alexandrins. Mais dans ce désarroi de la misère humaine apparaît quelquefois une vision sereine. La paix venant enfin mettre un terme à leurs maux, promettant de beaux jours et des plaisirs nouveaux. Alors la liberté désirée et chérie à tous les internés redonnera la vie. Voilà, un beau message d'espoir et ça nous semblait intéressant à ce titre de le partager avec les internautes pour ce 8 mai 1945, enfin, la commémoration du 8 mai 1945.
Voire même auditeur.
Voire auditeur, exactement. Voilà, donc juste pour terminer, avant de clôturer cette émission, l'annonce de nos deux prochaines conférences. Donc le jeudi 6 juin à 18h aux archives départementales, nous recevons Mireille Provençal, qui est historienne et qui est petite fille de Jean Lippmann, qui a été héros de la résistance dans le Laverque. Voilà, donc elle racontera l'histoire de sa famille depuis le ghetto de Metz en Lorraine jusqu'à la Riviera avant la Seconde Guerre mondiale et comment donc sa famille s'est repliée dans le Laverque pour mener des actions de résistance et échapper évidemment aussi à la déportation. Donc ce sera le jeudi 6 juin. Et ensuite, le jeudi 13 juin, nous recevons une autre conférencière, Madame Hélène Homps, qui est la conservatrice du Musée de la Vallée de Lubaï à Barcelonnette, qui, elle, nous évoquera les Barcelonnettes qui sont parties au Mexique faire fortune et aussi revenir après au pays, notamment pour construire ces belles villas qu'on voit toujours à Barcelonnette. Et donc, ça sera là le jeudi 13 juin à 18h. Merci.
Et pour ce qui concerne Histoire d'Archives, prochain rendez-vous, ce sera le jeudi 20 juin, la veille de la fête de la musique et de l'été. Merci Laure Franek.
Merci Jean-Marc et merci aux auditeurs.